ça te dérange pas. OK. Donc, on est dans Jean 7. Et nous lisons pour commencer simplement les versets 10 à 13. Ça va vous donner un peu l'atmosphère. Il y avait vraiment une ambiance de beaucoup d'atmosphère à ce moment-là, à Jérusalem. Non, c'est ça, la tension montait, puis c'est pas pour rien que Jésus voulait rester en Galilée, parce que son heure n'était pas encore venue, c'est pas parce qu'il avait peur ou quoi que ce soit. Mais la tension montait, puis il y avait toutes sortes de choses là, qui étaient en ébullition. Mais on sait qu'effectivement, il a fini par monter. Et c'est ce qu'on va lire, justement, dans les versets pour s'introduire avant que je prie, puis ensuite que je vous partage ce message de ce matin. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, évidemment, ça parle de Jésus, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il? » Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien. » D'autres disaient « Non, il égare la multitude. » Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Merci Seigneur pour ce temps dans ta parole ce matin et je te prie que tu puisses, comme d'habitude Seigneur, toi qui es si fidèle, amener ces vérités qu'on considère jusqu'au fond de chacun de nos cœurs, qu'on chérisse ces choses, que ça laisse son effet transformateur, réconfortant, peut-être aussi de réprimande, ce que chacun ici a besoin sur mesure. Mais aussi Seigneur, comme Église, on veut être transformé par le renouvellement de l'intelligence en considérant ses vérités. Et donc, merci que ce n'est pas en vain qu'on vient à toi ce matin. Tu rémunères ceux qui te cherchent et donc, on s'attend à ce que tu accomplisses tes desseins bienveillants. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Avant que je vous donne un peu de contexte, le titre du message vient du verset 24. « Jugez Jésus-Christ selon les apparences et non selon la justice. » On voit ça au verset 24. « Ne jugez pas selon les apparences, mais selon la justice. » Et on voit que vraiment ici, la foule et les dirigeants spirituels avaient tout faux, comme nos cousins nous disent, les Français. Ils avaient tout faux concernant la personne de Jésus. Et donc, je vous parle un peu du contexte. Je n'ai parlé avant la lecture ce matin, en première partie. Mais les choses ici, dans Jean, comme on le voit à travers là, vraiment toutes les chapitres qui avancent un après l'autre, il y a une tension qui est montante. Mais ici, il faut comprendre que la tension monte à cause que dans le chapitre 5, au tout début du chapitre 5, Jésus, le jour du sabbat, a guéri l'homme paralytique qui était sur le bord de la piscine de Bethesda. Et là, vous allez voir, il y a des références là, à guérir le jour du sabbat. C'est à ça que ça réfère. On est rendu beaucoup plus loin, mais encore ces choses retentissent. Parce qu'il avait fait ça à Jérusalem, et donc là, de retour à Jérusalem, il ramène ça. Et donc, on voit que pour Jésus, son ministère, on peut dire qu'il a atteint le sommet de sa popularité, okay, avec Jean 6, tout le monde qui suivait. Puis là, il commençait le déclin de sa popularité. C'est-à-dire que là, justement, les gens commençaient à déchanter. Ah, là, il y avait une division, justement, on l'a vu à la fin du chapitre 6, là. Il y en a qui ont arrêté de le suivre, puis tout ça. Et évidemment, l'opposition, j'allais dire la violence, et c'est vraiment de la violence du leadership envers lui aussi était en augmentant. Il cherchait à le saisir, cherchait à le tuer. Donc ça, c'est le contexte. Puis là, c'est pour ça que Jésus, en allant à Jérusalem, il allait déjà dans une atmosphère qui était beaucoup plus tendue qu'elle aurait pu l'être auparavant. Et donc, les choses ici, on peut dire qu'elles s'intensifient. Puis Jésus n'est pas étranger à ça. Son discours du chapitre 6 a vraiment jeté de l'huile sur le feu là, en disant hein, « Je viens d'en haut, je viens du ciel, je suis le vrai pain. » Puis bon, c'est pas parce qu'il voulait provoquer, c'est parce qu'il révélait qui il est. Puis les gens ne l'acceptaient pas. Puis en plus, il y a le contexte d'une fête. La fête des tabernacles, beaucoup de gens à Jérusalem, c'est une des trois fêtes où est-ce que tout le monde se rassemblait à Jérusalem. Et c'est la dernière fête, ça. La fête des tabernacles se passe à l'automne. Et donc, la prochaine, c'était quoi? C'était la Pâque. C'était, puis là, ben c'est la dernière, c'est là que Jésus a été crucifié. Donc, on voit vraiment, on s'en va vraiment vers le point culminant du ministère de Jésus. Et c'est pour ça que on voit à travers, puis c'est quelque chose qu'on voit souvent à travers Jean, son heure n'était pas encore venue. C'est quoi son heure? C'est la croix. C'est le point culminant de son ministère quand il a donné sa vie. Et justement, ben avant, quand c'était pas le temps, tu sais, les gens auraient probablement voulu le tuer, se saisir de lui pour le tuer. Mais c'était pas son temps. Puis c'est juste une petite parenthèse ici. La plus grande sécurité que nous puissions avoir, c'est pas d'en contrôler nos circonstances, tout savoir ce qui va arriver, comment ça va arriver, mais c'est d'être dans la volonté de Dieu. Donc, si on a quelque chose à se soucier, c'est pas « j'ai-tu toute la sécurité, toutes les réponses à mes questions, mais est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? » Et ça, c'est révélé dans sa parole, Dieu nous guide dans toute la vérité. Et donc, si vous cherchez de la sécurité, elle n'est pas dans des circonstances, dans des choses qu'on peut faire de nous-mêmes, mais c'est dans la volonté de Dieu pour nous autres. Juste un peu encore de contexte, la fête des tabernacles ou des tentes, vous savez, ça rappelait le fait qu'il avait été dans le désert pendant toutes ces années, Dieu avait été fidèle pour s'occuper des autres. Il y a deux thèmes qui revenaient. Un des thèmes qui revenait à cette fête, c'est l'eau, parce que Dieu leur avait donné de l'eau dans le désert pendant tout ce temps-là avec le rocher. Puis le rocher qui les suivait, c'est qui? C'est Christ. C'est ce que 1 Corinthiens 10, 4 nous dit. Donc, c'est un thème qui est important, l'eau, dans cette fête. On va revenir là-dessus plus en détail la semaine prochaine, parce que ça va être dans notre texte. Aujourd'hui, on n'est pas encore rendu là. Mais il y avait un autre thème qui était important dans cette fête, c'est celui de la lumière, avec la menorah, là. Puis bon, on voit ça plus au chapitre 8. Mais c'était deux éléments qui étaient importants. Puis évidemment, tout ça était accompli en Jésus. Puis là, quand on considère ce qui se passe ici, la fête, Jésus qui y va, puis ce qu'il dit sur lui-même, on voit que plus je dis ça avec prudence, là, mais Jésus qui est la parole faite chair, qui a habité parmi nous plein de grâce et de vérité, c'était pas assez, OK, pour que les hommes croient en lui, parce que il y avait le privilège d'avoir Dieu qui vient parmi eux, OK. Puis, c'est extraordinaire, puis je veux dire, c'est la bonté de Dieu qui permet ça, mais ça ne faisait pas d'eux des chrétiens, ça ne faisait pas d'eux automatiquement des récipiendaires de ce privilège. Ils avaient le privilège d'avoir Dieu devant eux comme ça, mais c'était pas automatiquement, puis c'est ça le problème qu'on voit ici, puis qui monte de plus en plus dans l'évangile de Jean, c'est que la majorité du peuple et le leadership spirituel jugeaient Jésus selon les apparences, et non selon la vérité. Ils regardaient, ah, il doit venir de là, puis ils disent des faussetés, là. Ah, il est supposé de venir de Bethléem et non pas de Galilée. Ben, il vient de Bethléem, il a grandi en Galilée, mais il est né à Bethléem. Ils disent, ah, il n'y a pas de prophète qui sort de Galilée. Ça, c'était des préjugés. Les gens de Jérusalem avaient des grands préjugés contre les gens de la Galilée. Puis le prophète Jonas nous vient, ça nous le dit parce que ça dit là, le Tishbite, là, donc ça nous donne l'endroit géographique où est-ce qu'il était, c'est la Galilée. Certains vont dire que Nahum même était aussi de cette région-là. Donc il y en a des prophètes qui sont sortis de là. C'est juste parce qu'il était, disons, il y avait un préjugé très défavorable envers cette région. Il les méprisait. En plus, quoi, Jésus, la majorité de ses disciples, d'où est-ce qu'ils venaient? De Galilée. Des gens qui étaient vus comme pas éduqués, pas raffinés, dans le fond, des gens pas fréquentables. Donc, ça nous donne le contexte. Donc là, Jésus se présente, puis il y a tout ce bagage-là, toute cette mise en scène, si je peux le dire, là, parce que, en tout cas, ou cette mise en place. Et Jésus se présente là-dedans, et là, il est face au jugement de la foule, et on va voir trois mauvais jugements contre Jésus ici qui sont exercés, hein, selon les apparences et non selon la justice, selon la vérité. Le premier jugement, ils ont jugé Jésus par la peur. On a lu les versets 10 à 13, on va les relire, surtout le verset 13. Lorsque ses frères, furent montés à la fête, il monta lui-même, non publiquement mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il? » Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte, par peur des Juifs. Donc, on voit ici qu'il y avait une peur ambiante dans la ville de Jérusalem lors de cette fête, tout le monde n'était pas trop sûr, il n'osait pas parler, se prononcer sur l'identité de Jésus. Et ça, je dirais que cette peur ambiante, c'est le modus operandi du monde et du diable. Est-ce que ça a changé? Pensez-vous que la peur, c'est encore une tactique qu'on voit de nos jours dans notre société? Puis c'est pas d'hier, c'était comme ça à l'époque, c'est encore comme ça. Pourquoi? Parce que le monde et le diable se servent de la peur pour figer le monde, les incroyants, sous le contrôle de la peur, afin de garder les gens loin du contrôle de Dieu. Quand je suis dirigé par la peur, je me place sous le contrôle de la peur. Quand je suis dirigé par Dieu, je me place sous le contrôle de Dieu. C'est pour ça que Jésus a fait tout le temps l'équation. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Vous avez peur, vous vous laissez contrôler par la peur, vous ne marchez pas par la foi, vous vous laissez contrôler, dirigé par Dieu. Les deux sont en opposition directe l'un à l'autre. Et Dieu, lui, quand il est au contrôle, c'est bon, c'est toujours bon, parce que Dieu n'est que bon et ne peut être autrement que bon. Mais tout le jeu du monde, c'est de jouer sur la peur pour enlever nos regards sur celui qui est bon puis essayer de nous mettre, nous autres, au contrôle de ce qui nous arrive. Puis là, on peut regarder, tu sais, on peut regarder dans nos vies de façon microscopique, mais regardons même depuis, mettons, les 25 dernières années. Si on regarde le 11 septembre, la COVID, puis là, le nouveau sujet de l'heure, bon, c'est Trump avec ses tarifs, puis tout ça, puis tout le temps des choses pour nous faire peur, OK? Et tous ces moyens et ces tactiques du monde, c'est pour garder non seulement le monde, mais aussi le peuple de Dieu, parce que c'est pas comme si on s'en échappe. Nous aussi, on doit faire le choix de où on se place sous le contrôle de qui. Et donc, la tactique, c'est le moyen de garder le monde sous le contrôle de la peur au lieu du contrôle de Dieu. Mais là-dessus, j'aimerais vous lire 2 Corinthiens 5, verset 16. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et ni si nous avons connu Christ selon la chair, autrement dit, avant d'être sauvé, wow, Jésus, je sais c'est qui, on ne le connaissait pas comme personne, on savait juste c'était qui, mais donc on avait de l'information à son sujet, mais on ne le connaissait pas. OK? Donc ça dit, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le fond, toute l'idée de la peur, puis se placer sous le contrôle de la peur, c'est en lien direct avec comment je connais mon Dieu. Si pour moi, mon Dieu, c'est comme pour prendre les paroles d'Azaph, si pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, et je place mon quoi donc, dans le Seigneur l'Éternel, mon plaisir, hein? Mon refuge, je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Si c'est le Dieu que je connais, puis lorsque la détresse, les circonstances ou les choses vont mal, c'est lui mon refuge, c'est vers lui que je me tourne, bien là, je connais Dieu. Je ne le connais plus selon la chair, là, je le connais par l'Esprit, au moyen de la foi. Et ça, c'est un refuge d'une valeur sûre. Mais pourtant, quand on regarde le monde, regardez au verset 12, hein, la foule, il y avait des rumeurs à son sujet. Toutes sortes de choses qu'il dit au sujet de Jésus. Puis ça allait de bien. Ah, c'est un homme de bien. Non, non, non. Il égare la multitude. Donc, c'est tellement changeant l'opinion des hommes. C'est chancelant, ça varie. Mais Jésus, lui, son autorité, elle est ferme, inébranlable et sans équivoque. Écoutez-le parler au verset 14 et 15. « Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple, il enseignait. Les Juifs s'étonnaient comment... connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? » Là, on va voir ce qu'il dit dans un instant, mais on voit que Jésus déjà est reconnu comme ne parlant pas comme les autres personnes, n'enseignant pas juste comme ça à la volée. Mais il dit lui-même au verset 16, « Jésus leur a répondu, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Il revient encore et toujours au Père. Donc, pourquoi qu'il y a un enseignement ferme, inébranlable et autoritaire? Parce que c'est l'enseignement directement de Dieu. Jésus qui est venu révéler le Père. C'est pour ça qu'il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Tout ce que Dieu disait, c'est en parfait accord avec ce que le Père voulait communiquer. Et on continue au verset 17, ça dit, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » Très important verset des Écritures. Et... On voit ici comment Jésus, il marque une ligne de démarcation, ou on peut dire il divise. Pourquoi? Parce que il dit, t'es soit d'un bord, t'es soit de l'autre. Tu sais, ce qu'il dit au verset 16, dans le fond, ma doctrine, au verset 17, pardon, si quelqu'un veut faire ma volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Autrement dit, il y a ceux qui connaissent, il y a ceux qui peuvent prétendre connaître, mais qui ne connaissent pas. C'est vraiment une idée, est-ce que tu connais Dieu réellement ou non? Puis c'est là que la ligne de démarcation se faisait. Pas les bons rituels, le sabbat par-ci ou par-là de la façon... Non, est-ce que tu connais Dieu ou tu ne le connais pas? Est-ce que tu as une relation vivante avec celui qui m'a envoyé, avec celui qui s'est révélé dans toutes les Écritures? Ou est-ce que tu fais juste, comme ça dit dans Ésaïe, l'honorer de tes lèvres, mais que ton cœur est éloigné de lui? C'était pas nouveau ce que Jésus disait, là. C'est juste qu'il leur mettait vraiment en évidence devant eux comme ça. Et dans le fond, Jésus, il parle ici de connaître, mais comment celui qui veut faire sa volonté, il connaîtra. Dieu, on ne le connaît pas juste en théorie, puis avec des belles intentions, des pensées. Non, on le connaît par la foi. On le connaît lorsque on le prend au mot, puis que Dieu nous dit ça, on le croit, on va découvrir que c'est vrai. Autrement dit, on croit afin de voir. N'est-ce pas le même pour le salut dès le commencement? On sait que hein, l'Évangile, c'est quoi? C'est que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il y a un seul sauveur, c'est Jésus. Il y a un seul moyen, c'est par la foi. Hein? C'est par la grâce au moyen de la foi. Et donc, quand on reçoit Jésus, là, on a la vie. Puis là, on voit. On voit que c'est vrai que Dieu sauve. On voit que c'est vrai qu'il transforme les vies, qu'il donne une espérance vivante, toutes ces choses-là. Puis c'est vrai pour après ça, tout le reste de la vie chrétienne. Et c'est ce qu'on a ici avec les paroles de Jésus, où est-ce que lorsqu'il parle de faire sa volonté, c'était pas dans un sens légaliste, parce qu'il dit plus tôt, on a vu ça la semaine dernière, que la volonté de Dieu, c'est qu'on croit à celui qui l'a envoyé. Donc sa volonté, c'est de croire. Évidemment, ça donne des actions, des choses dans notre vie, mais c'est d'abord et avant tout une question de foi. Et pourquoi ça c'est important? Parce que la foi ici, à laquelle Jésus appelle, la confiance en Dieu, à le connaître lui, c'est l'inverse de la peur. En fait, c'est son antidote. Puis lorsqu'on juge les choses selon la peur, on a un brouillard, on ne voit pas les choses clairement. Mais lorsqu'on juge selon la réalité ultime de Dieu, là, tout est clair et tout est vrai. Et ça, c'est tellement important, mes amis. On a à apprendre ça comme chrétien dans nos rapports avec le monde pour dire aux gens, ben, tu sais, si ta vie va pas bien, c'est parce que t'as pas Jésus dans ta vie, puis tout ça. Mais aussi comme nous, en tant que chrétiens, puis entre chrétiens, de s'encourager à voir tout selon la réalité ultime de Dieu. Parce que le monde et ses voies ont des façons d'expliquer ce qui nous arrive. Mais le diagnostic divin, la réalité ultime, de vraiment comprendre les choses telles qu'elles sont, il faut que ça soit à la lumière de Dieu. Je vous donne un exemple. Puis là, je ne serais pas nécessairement politiquement correct, là. Mais beaucoup, moi, j'entends ça beaucoup à la prison. « Ah, c'est un problème de santé mentale, puis tout ça. » Puis je ne suis pas en train de dire que des fois, les gens ne perdent pas la boule, puis il y a tout ça, puis il y a toutes les affaires de médication. C'est un grand sujet assez complexe, mais je veux juste amener un point par rapport à ça. Souvent, les gens vont essayer d'amener juste la réalité physique, visible, puis, OK, une explication ici-bas. Alors qu'en réalité, regardez cette personne-là qui est devant vous, puis mettez-la devant Dieu, c'est quoi son rapport? L'orgueil, la foi, ça va expliquer bien des affaires. En fait, ça va expliquer le fondement des choses, dont les autres choses sont des répercussions, des conséquences de ce problème spirituel. Parce que sinon, on est comme un aveugle, qu'on dit un aveugle, on voit quelque chose, on peut dire, ah ben regarde, cette personne-là, elle est donc bien bizarre comment elle agit, c'est donc bien pas normal ce qu'elle fait. Oui, OK, mais pourquoi? La réponse est dans la réalité ultime de Dieu. C'est quoi sa réponse à Dieu, à l'Évangile? C'est quoi la réponse? OK? C'est quelqu'un qui est indépendant. OK? Je vous dis, ça va complètement tout changer la façon de voir les choses. Et en fait, quand on comprend ici, c'est ce dont Jésus parle quand il parle de connaître la doctrine qui vient de Dieu. Verset 18 maintenant. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Évidemment, Jésus parle de lui. Jésus ne cherchait pas sa propre gloire, parce qu'il ne parlait pas de lui-même, il parlait de tout. On a vu ça hier en Christologie, hein? Dans la kénose, Jésus était totalement dépendant du Père, et tout ce qu'il disait, c'est ce que le Père voulait qu'il dise. Il était dans cette relation de dépendance totale au Père, et donc tout ce qu'il disait, ce qu'il faisait, c'était la volonté de Dieu. Et ici, c'est intéressant parce que quand ça parle de rechercher sa propre gloire versus chercher celle d'un autre, ben c'est vraiment la différence de la confiance en qui ou en quoi je me confie. Et là-dessus, j'ai retenu pour vous expliquer, puis je vais donner un peu plus d'explications après, mais Ésaïe 64, 3 et 4, ça dit « Jamais n'a-t-on appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui ou s'attendent à lui. » Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi, mais tu es irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Ici, vraiment, c'est quoi que ça veut dire? Rechercher la gloire de Dieu, c'est s'attendre à lui. C'est comme ici, on le voit dans Ésaïe, se confier en lui par rapport à ce qu'il nous envoie et s'attendre à ce que Dieu atteigne ses objectifs lorsque on se confie en lui, qu'on s'attend à lui. Ou pour le dire dans les mots de Lamentation, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça, c'est dur comme humain. On aime ça souvent avoir un plan A, un plan B, puis on peut faire tout l'alphabet, dépendamment de la personne. Tu qui sont pas pires, on va sortir les alphabet people, là, on peut en sortir une version chrétienne. Plan A, plan B, plan C, plan D, plan... OK? Puis, c'est quoi souvent, c'est quand on y pense, c'est simplement différentes façons d'exprimer notre incrédulité envers Dieu au lieu de s'attendre à lui. Et ça, c'est dur. Moi, en tout cas, je trouve ça dur. Toi, tu trouves ça dur? On est deux à trouver ça dur. S'attendre à Dieu. Tu sais, quand que ça se passe pas aussi vite qu'on voudrait ou de la manière qu'on voudrait, puis là, dire « Quoi, Dieu, je fais rien? » Puis là, on va avoir toutes sortes de pensées qui vont venir. « Quoi, t'es passif? Tu fais rien? » Ben, si on veut faire quelque chose, puis qu'on le fait de façon indépendante, on est tous bien de rien faire. C'est une question de dépendance, c'est ça l'idée de la foi, puis l'orgueil, la foi. Les deux opposés l'un à l'autre. Lorsque je suis orgueilleux, j'essaie de faire les choses par moi-même. Lorsque par la foi, dans l'humilité, je me confie en Dieu, je vais m'attendre à lui. Puis faites-vous-en pas, lorsqu'on s'attend à Dieu, il est vivant, il va nous diriger, puis il va nous dire d'avancer le pas de la foi, puis ensuite l'autre, puis ensuite l'autre. La question, c'est pas est-ce que je fais quelque chose ou non, c'est qui décide. C'est quand que ça va se passer, dans mon timing, dans ma façon, ou dans le timing, la façon de Dieu. Et c'est dur, ça, quand la menace se fait pressante, se fait de plus en plus lourde. Et donc, c'est ça. S'attendre à Dieu, c'est dans la pression que c'est là que c'est le plus dur. OK. Juste un petit... une application pour terminer ce point ce matin. Je parlais d'attendre Dieu. Mais des fois aussi, une façon qui va révéler comment qu'on peut juger selon la peur, c'est une façon des fois qu'on ne va pas nécessairement diagnostiquer de cette manière-là. Vous savez, des fois, on peut être dur envers les autres, puis avoir du jugement envers les autres, on dit « judgmental », avoir une attitude de jugement envers les autres, ou même envers Dieu, ses voix, okay, ce qu'il nous envoie. Et ça, ça va révéler. Ça, là, quand on a cette attitude, ça révèle mes peurs, mon manque de foi envers Dieu, sa bonté puis sa capacité. C'est pour ça que nous, en tant que peuple de Dieu, on doit se repentir de juger des circonstances de ce qui nous arrive selon la peur. Et là, je vous donne un exemple, puis je vais vous donner le regard qu'on doit avoir là-dessus, ça va nous aider à comprendre. Vous savez, on fait tous des mauvais coups. Dans le sens, pas des mauvais coups. On fait toutes des erreurs. On fait des affaires qu'on regrette d'avoir faites. OK, puis bon. Puis, quand on a une attitude de jugement, puis que les autres font prennent des mauvaises décisions, puis tout ça, On peut être sévère. En fait, quelqu'un qui a une attitude de jugement est sévère envers ces personnes-là. Mais quand ça nous arrive à nous autres, c'est quoi l'attitude? Ben là, on veut que Dieu soit patient envers nous, puis qu'il y ait de la miséricorde, puis on veut aussi que les autres aient cette attitude-là, n'est-ce pas? Et ça, c'est quoi que ça va révéler? Ça va révéler la disposition de notre cœur, mais aussi, puis là, c'est pour ça que je vous encourage, lorsqu'on voit cette attitude-là dans notre vie, puis si on voit quelqu'un qui a cette attitude-là envers nous autres, on dit, ah, il est bien dur, il juge, elle est donc bien intransigeante, OK? Ceux qui voient tous les problèmes des autres, qui s'acharnent à tout ce qui est le problème chez les autres, c'est des gens foncièrement peureux. Ça vient de la peur. Parce que moi, ils se placent comme au-dessus de la mêlée. Hey, moi, je vois tous les problèmes. Puis on parle des gens peureux. Mais en fait, pensez-y, là. Si on voit tout à la lumière de l'ultime réalité de Dieu, quelqu'un comme ça peut dire, hey, lui, c'est donc bien problème. C'est que, dans le fond, il a peur que cette personne-là cause des problèmes, puis facile. Puis c'est toutes des peurs sur comment ça peut virer, puis tout ça. Puis en même temps, c'est une peur aussi, ultimement, par rapport à Dieu, qui est au contrôle de tout. Puis toi, qui essayes de prendre le contrôle, puis de des gens, des personnes. Et ça, mes amis, c'est un problème fondamental grave, parce que c'est ce qu'on voit ici dans l'attitude des dirigeants avec Jésus. Ils avaient peur de lui. Ils essayaient de le contrôler. Puis eux-mêmes, ça c'est vrai aussi, quelqu'un qui a une attitude de jugement, quand on a cette attitude-là, on est aveugle par rapport à nos propres péchés, à nos propres patterns. On ne se voit pas aller. Et c'est beaucoup ce qu'on voit ici. Puis ça, mes amis, en tant que chrétien, il faut qu'on apprenne à mettre les mots sur les choses. Quelqu'un qui a une attitude de main, c'est pas tant que ah, son prince qui a une attitude de jugement. Non, c'est une attitude de peur puis de manque de foi envers Dieu. Tu sais, quand Moïse s'est choqué puis il a frappé le rocher au lieu de parler, là, OK, parce que la première fois, il était frappé, c'est une image de la croix, Jésus frappé pour nous, l'eau jaillit. La deuxième fois, c'est une image de la résurrection. Ah, Lazare sort, c'est comme où est-ce qu'il allait parler puis l'eau allait jaillir. C'est quoi que Dieu a dit? Ah, t'as donc bien de la misère avec ta colère. Tout. Non, c'est pas le diagnostic divin. Et t'as pas cru en moi. Tu m'as pas donné gloire. Tu m'as pas présenté comme je vais être présenté. Fait que quand on voit quelqu'un qui a des jugements de main, son prince spirituel, c'est pas ah, de la colère envers les autres. Puis ça, c'est pas ça le problème fondamental. C'est un problème par rapport à Dieu. Puis ses voix, puis un désir de contrôler par peur au lieu de laisser Dieu contrôler. Avez-vous compris mon application? C'était pour mon premier point. Juger selon la peur, faisons attention à ça, c'est une réalité dans laquelle on peut facilement tomber. Et lorsque ça arrive, ça va nous amener au deuxième mauvais jugement, non seulement de juger selon la peur, mais on peut aussi juger selon l'erreur. Juger selon l'erreur, dans les versets 19 à 24, d'abord les versets 19 et 20, Moïse, puis là c'est Jésus qui parle, il dit « Moïse, ne vous a-t-il pas donné la loi? » Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Là, attribuer une présence démoniaque à Jésus, c'est une grave erreur. Okay? Il était gravement dans l'erreur. Puis, le problème ici, évidemment, c'est que ne comprenait pas Dieu, ne comprenait pas ses voies, ni les Écritures. Il tordait ce que Jésus disait par rapport à qui il est, puis ses œuvres. Et donc, ici, il jugeait selon l'erreur de penser que Jésus avait quelque chose de très, très reprochable, c'est-à-dire qu'il avait un démon. On sautait vite aux conclusions. Et ce qu'on peut voir dans ça, c'est la grande vérité spirituelle que OK, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Qu'est-ce qu'a fait la vérité? Jésus, lorsqu'elle nous a franchis. Si on prend l'autre côté de cette médaille-là, l'erreur, qu'est-ce qu'a fait elle? Elle rend esclave. Lorsqu'on juge selon l'erreur, on devient esclave de ses erreurs et de tout le tissu de mensonges qu'on peut bâtir autour de ça. Et c'est ce qui est arrivé ici, là. Ceux qui croyaient à Jésus de plus en plus vivaient dans cette... Jésus a dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Là, il allait de plus en plus vivre cette liberté. Mais ceux qui rejetaient puis qui croyaient les erreurs, les choses erronées au sujet de Jésus, étaient de plus en plus esclaves à ça puis à tout ce qui... Ça a fait ça aussi l'autre jour. On va l'enlever. Et donc, Ça nous aide maintenant, si on continue à comprendre cette mentalité-là d'esclavage, parce que là, ils ont dit, « T'as un démon qui cherche à te faire mourir. » Regardez ce que Jésus dit au verset 21. Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre et vous en êtes étonnés. » Pour rappel, c'était quoi l'œuvre? De quoi qu'il parle ici, c'est quoi l'œuvre? Guérir le gars le jour du sabbat qui était sur le bord de la piscine de Bethesda. OK? C'est de ça qu'il parle. Puis il continue. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, parce qu'on sait, c'est vrai que c'est venu avant, on voit ça dans Genèse. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat, si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Voyez-vous, il y a vraiment, ici, il y a de l'hypocrisie. Il y a une erreur fondamentale où est-ce que ils jugent vraiment selon deux critères différents. Premièrement, quand Jésus leur dit « Nul n'observe la loi », je pense que c'est qui? Dans la prière, c'est sorti. C'est vrai que je pense que c'est Paul. Ils ont dû prendre ça comme une insulte. « Hey, nous, on est les champions de la loi. » Puis, OK? Non, nul n'observe la loi. Ça, c'est le diagnostic divin. Là. Fait que justement, Dieu voyait le cœur et tout ça. Mais, donc ici, il faut voir que, bon, comme je disais, il référait à la guérison du paralytique le jour du sabbat. Et donc, ce que Jésus fait ici, c'est comme s'il les prend, plus pas pour dire les prendre au piège, là, mais ils montrent leur contradiction en allant sur leur propre terrain, le terrain du sabbat. Eux, les champions du sabbat, puis tout ça, puis ils reprenaient tout le temps Jésus sur la question du sabbat. OK? En essence, ce qu'il leur dit, là, si vous êtes capable d'observer la loi de Moïse en circoncisant un homme, puis en, on va dire en le blessant, là, parce que disons que c'est pas vraiment. C'est pas très agréable. Il dit, moi, je peux pas en guérir un tout entier le jour du sabbat. Tu sais, il leur montre la contradiction. Vous faites ça le jour du sabbat, moi, je pourrais pas faire quelque chose de mieux, de guérison de quelqu'un tout entier le jour du sabbat. Autrement dit, il leur met le problème de leur jugement selon l'erreur dans la face. Pourquoi? C'est pour ça qu'il conclut, ne jugez pas selon l'apparence, mais selon la justice. Puis l'idée ici, là, ça nous donne à comprendre, par exemple, ce qu'il nous dit, ça c'est cité deux fois dans Matthieu, « J'aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Pensez à quelqu'un qui se confie dans le fait, hey, « Moi, j'ai fait la circoncision de quelqu'un le jour du sabbat, j'observe la loi, puis tout ça, je suis tout correct. » Comment est l'aveuglement spirituel de voir quelqu'un qui, le jour du sabbat, guérit quelqu'un? Je veux dire, « Ah, c'est un œuvre. » Il a fait du bien. La personne, ça fait des années, 38 ans qu'il était esclave, qu'il ne pouvait pas bouger. Puis Jésus le libère la journée du sabbat. Puis en passant, il n'y avait rien dans la loi qui disait qu'on ne pouvait pas guérir quelqu'un le jour du sabbat. Puis Jésus aussi a pris l'idée, si tu perds une brebis, tu vas la chercher, OK? Puis c'est ça que Jésus a fait. Donc ça nous aide à comprendre ici. Leur problème, puis si vous voulez plus de détails, vous lirez Isaïe 58 sur tout l'esprit du sabbat. Là. Parce que c'est l'idée, c'est prendre plaisir en l'Éternel, c'est mon jour, c'est moi le centre. Eux autres, ils en faisaient vraiment une espèce de piège pour tout le monde, puis ça donnait une façon de contrôler et tout ça. Mais je dirais que leur erreur, bien qu'il y avait un côté doctrinal à leur erreur et théologique, mais leur erreur était fondamentalement relationnelle. Ils montraient qu'ils ne connaissaient pas Dieu en s'outrageant de même, en étant tout pris dans les choses de même secondaire. Ils voyaient que, comme Jésus a dit dans Matthieu 22, ils oubliaient les choses les plus importantes de la loi. Tu sais, eux autres qui mesuraient le cumin puis toutes les choses, là, ça c'est dans la loi. Là, il y avait un homme tout entier devant eux, là, esclave, là. Ils s'outrageaient que Jésus fasse du bien. Voyez-vous comment il était complètement à côté de la plaque, alors que Jésus leur met ça devant les yeux. Et dans le fond, ils étaient dans l'aveuglement spirituel, dans l'orgueil, dans l'autosuffisance. C'est ça le problème lorsqu'on juge selon l'erreur. On s'en remet souvent à des barèmes qui ne sont pas bibliques, puis on peut se camper là-dedans. Et je dirais, une application là-dessus, faisons attention. Vous savez, les milieux chrétiens sont connus pour ça. Il faut faire attention à ce qu'on entend et ce qu'on répète. Tu sais, des fois, quelqu'un d'une autre église, on peut entendre « Ah, c'est-tu quoi, il a fait ça, il a dit ci, puis tout ça. » Allez aux sources premières. Connaissez-vous le journalisme? Les sources « primary sources », comment qu'on appelle ça? Les sources premières, les sources primaires. Parce que nous autres, je vous dis ça de connaissance de cause, des fois, il y a des gens qui vont répandre toutes sortes de choses, puis c'est même pas vrai. Ils ont entendu ça de quelqu'un ou d'un autre, puis d'un autre. Et s'il y a quelque chose que vous entendez, puis moi, je me rappelle en menant avec un frère, j'avais entendu, puis tout, puis finalement, j'ai été le voir, j'ai dit « Frère, je te demande pardon, puis j'ai entendu des affaires, je l'ai cru, puis je l'ai répété, puis c'était même pas vrai. » Puis j'étais allé m'humilier, puis tu sais quoi? Mais après ça, j'étais libéré. Mais faisons attention, parce que des fois, on peut juger selon l'erreur. C'est même pas vrai ce qu'on a entendu, puis on le répète. Là, on devient beaucoup plus une partie du problème, puis on répand ça. Ça fait pas du bien, ça donne pas l'honneur au Seigneur. En fait, ça devient une occasion même pour ceux qui connaissent pas Dieu de s'attaquer à Dieu puis à son peuple. Donc, qu'on se tienne loin de tout ça. Puis en passant, c'est pas très édifiant de toute façon. C'est les œuvres de la chair. Si on est contrôlé par l'esprit, et si quelqu'un vous arrive avec quelque chose, là, on peut demander à Dieu, « Dieu, c'est quoi tu veux que je fasse avec ça? » Peut-être que si la personne nous parle de ça, « T'as-tu parlé au premier concerné? Si tu es prêt à en parler aux autres, est-ce que tu as parlé à la personne qui... » Souvent, c'est ça, quelqu'un peut parler à tout le monde d'un problème, puis il n'est pas allé voir la personne première concernée. Fait qu'elle ne fait pas... Elle ne règle pas le problème, elle fait que le rempirer. Donc, Dieu nous dirige à répondre par l'esprit à ces manifestations de la chair. Ça m'amène au troisième faux jugement, mauvais jugement. Juger par la terreur. Regardez le verset 25. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas celui qu'il cherche à faire mourir? Voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. » Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Mais le verset 25, hein, il cherche à le faire mourir, puis c'est pas la seule fois. Ça dit ici au verset 25, on a vu ça tantôt, verset 19 et 20, Jésus qui dit « Vous cherchez à me faire mourir ». Ici encore, c'est répété. Au verset 30, verset 32, il essaie de le saisir, puis c'était pas le saisir, puis oh, on veut te poser des questions, on est des amis. Non, il voulait le saisir dans des vues hostiles. D'y donner un faux tribunal, puis finalement de l'inculper comme étant coupable. Donc ça, c'est l'atmosphère spirituelle, OK? Une atmosphère de terreur. C'est pour ça que tout le monde avait peur. Tout le monde était ses dents parce qu'il y avait une hostilité persistante envers Jésus. Un rejet non repentant de la vérité de Jésus-Christ. Et ça devait être terrible l'atmosphère, mais c'est une fête, imaginez-vous, une belle fête, hein, quand il y a une atmosphère de même. Et l'idée, là, avec l'idée de la terreur puis l'atmosphère que je vous décris ici, c'est que les gens voulaient, les leaders religieux spécialement, là, mais les gens aussi de la foule qui embarquaient là-dedans, voulaient prendre les choses en main concernant Jésus, contrôler, et s'ériger ainsi dans leur indépendance face à Dieu. Au lieu de se placer sous l'autorité de Dieu, ils voulaient prendre l'autorité sur Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Et ça, c'est comme ça que ça marche que lorsqu'on juge selon la terreur, lorsqu'on est rendu, il y a un endurcissement, il y a une escalade ici, là, l'endurcissement du cœur dans les trois points du message aujourd'hui, c'est que lorsqu'on est rendu à ce point-là, on veut se débarrasser à tout prix de celui qui nous heurte, qui nous dérange, qui ne répond pas à nos attentes. Autrement dit, comment des fois ça arrive des gens qui sont exposés à la vérité? Dans une famille chrétienne, dans une église, collègues de travail. Puis je comprends que des fois les chrétiens peuvent avoir une mauvaise attitude, puis ça peut être repoussant, mais des fois même quelqu'un qui amène la vérité tout simplement là, dans l'amour puis un souci que la personne connaisse Jésus, bien, des fois, les gens vont arriver à ce point-là où est-ce qu'il y a une hostilité, là, puis c'est comme, je veux plus rien entendre. Moi, je l'entends assez souvent. Ils disent, ah, moi, j'ai entendu. Puis, des fois, j'essaie, je pense qu'il en parlait dans le livre, Égaré dans le désert. Souvent, c'est des gens qui ont été blessés par ce qu'ils connaissent de Dieu, ce qui est attaché à Dieu, tu sais, la religion, tout ça. C'est pas ce que Dieu est vraiment, mais eux autres, dans leur conception, c'est ça. Puis là, il y a une hostilité, là. Et c'est ce qu'on voit ici. il y avait vraiment cette hostilité montante. Puis là, il dit, ah, il y en a qui croient, qui l'ont reconnu. Oh non, non. Puis, fait qu'on voit vraiment cette attitude-là, ce climat de terreur qui était établi puis qui grandissait de plus en plus. Puis quand ça parle ici, au verset 26-27 qu'on a lu, bon, il parle librement, hein, que les chefs l'auraient reconnu, hein, qu'il est le Christ. Puis il dit, ben nous, là, on sait que quand il va venir, on va pas savoir d'où est-ce qu'il vient. Là, c'est spécial parce que ça, là, cette pensée-là chez les Juifs, de ne pas savoir il vient de où le Messie, savez-vous, c'est parti de où, cette idée-là? Voulez-vous le savoir? Ah, OK. Bon, je vais vous le dire. Ça vient de Malachie, ça vient des Écritures. Dans Malachie 3.1, ça dit, « Voici, j'enverrai mon messager. » Évidemment, c'est un passage messianique. « Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans le temple le Seigneur que vous cherchez. » Ah, boum, va arriver, on ne sait pas, il vient de où, il va se présenter dans le temple. On saura pas, ça vient de là, cette pensée-là. Qu'il va se présenter comme ça, soudainement, on ne saura pas trop d'où ce qui vient, puis le messager d'alliance que vous désirez. C'est de là que ça venait, c'est l'interprétation de Malachie 3.1. Et donc, il se dit, on ne va pas savoir d'où il est. Donc, c'est drôle qu'il se posait une question légitime au verset 26. Hey, est-ce que les chefs croient en lui, ont reconnu qu'il est le Christ, mais leur conclusion, elle est erronée par rapport à d'où vient Jésus, parce qu'il pensait bien de savoir d'où il était, parce qu'il il parlait en termes terrestres, et Jésus, lui, comme d'habitude, il parle en termes célestes. C'est pour ça qu'il dit au verset 28, regardez ce que ça dit. Jésus enseignant dans le temple, puis là, il a entendu ce qu'il disait. Puis là, vous voyez l'ironie dans le verset 28. « Vous connaissez, vous savez d'où je suis ?» Point d'exclamation. « Ah ouais, vous savez d'où je suis ?» OK, c'est ça l'idée. « Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. » Il y a un certain sarcasme là-dedans, OK, il y a un ton là-dedans de reproche de la part de Jésus, en me disant « Ah oui, vous savez d'où je viens ?» Ils pensaient, eux autres, savoir d'où ce qui vient. Ils parlaient en termes de « Ah ouais, c'est le gars qui est né là, t'sais. OK ?» Mais en fait, Jésus, lui, parle en termes, c'est-à-dire, je viens de là-haut, je viens du ciel, je suis envoyé par votre Dieu que vous dites adorer. Et c'est là qu'on voit justement qu'il y avait une incompréhension fondamentale. Mais regardez, parce que ça termine en disant, vous ne le connaissez pas, verset 29, « Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Voyez-vous encore, le problème fondamental est relationnel. Tu sais, avec le sabbat et tout ça, il montrait qu'il ne connaissait pas Dieu, puis encore là, on sait d'où il vient. Non, non, si tu connaissais celui qui m'envoie, tu saurais d'où je viens. C'était pas juste un problème, ah, le sabbat, puis ici, puis ça, non, c'est parce qu'il ne connaissait pas Dieu. C'était ça le problème fondamental. C'est une question relationnelle de connaître Dieu par la foi. Et n'est-ce pas, d'ailleurs, toute l'idée de la nouvelle alliance que Jésus venait inaugurer, qui allait commencer avec la croix, mais que déjà Jésus préparait le terrain. C'est quoi la nouvelle alliance? C'est dit dans Jérémie 31, tous connaîtront Dieu, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Puis connaître, c'est l'idée d'une connaissance relationnelle. C'est pas juste de connaître des choses au sujet de Dieu, mais vraiment de le connaître, d'avoir un cœur nouveau, selon Ézéchiel 26. Et donc, c'est vraiment encore là, et au cœur de ce qui se passe ici, Jésus qui dit, vous passez à côté de tout ce que je vous dis, parce que par la foi, vous ne voulez pas me connaître. Vous avez des pensées, vous avez toutes sortes d'erreurs, parce que vous marchez par la vue et non par la foi. Mais, verset 30, il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Puis c'est quoi l'heure dont il est question? C'est la croix. Okay? Parce que Jésus même plus tard a dit, le Fils de l'homme va venir. Puis c'est l'heure de gloire parce que c'est présenté comme l'heure où est-ce qu'il est montré comme celui qui est venu accomplir la mission qui avait été annoncée de toute l'histoire de la rédemption. Mais ce qui est le fun, c'est qu'au verset 31, il y en a qui ont cru. Plusieurs parmi la foule crurent en lui. Ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci? Puis là, les gens vont dire, ouais, mais y croyais-tu vraiment? Parce que je vous dis, dans Jean, souvent, il y a une distinction entre des gens qui vont croire. Ah, il est le Messie, je reconnais des choses sur lui. Il croit d'une façon extérieure, superficielle, puis intellectuelle. Puis d'autres fois, c'est vraiment une foi salvatrice. Quand on étudie l'évangile de Jean, il distingue les deux. Ici, on peut se poser la question, parce qu'ils disent, ils croient à cause des miracles. Mais les miracles révèlent qui Jésus est. OK, les miracles pointent à la personne de Christ. Donc, on peut croire, OK, ça devait être une foi authentique, malgré que le temps ici, quand ça dit « il crut », c'est un temps de verbe qui est utilisé dans le grec pour marquer un point dans le temps. C'est-à-dire, à aoriste, là, ceux qui connaissent un peu, c'est-à-dire, tu sais, on écrit une phrase, puis à la fin, on met un point, mais c'est ça l'idée, c'est que c'est fini, puis il n'y a pas de suite. Tandis que lorsqu'on prend un autre temps de verbe qui parle de quelque chose qui commence, mais qui finit jamais, OK? Donc, est-ce qu'il était vraiment sauvé? C'était-tu authentique? Vous essayerez de le discerner vous-même. De toute façon, ça se peut qu'il y en a là-dedans qui avaient vraiment la foi, d'autres non. Mais juste pour vous dire que c'est un point qui, selon différents commentaires, selon ce qu'on peut voir, ça ne fait pas nécessairement l'unanimité. Et ce n'est pas la seule place dans Jean, on va en reparler, il y a d'autres places comme ça, que ça parle de ceux qui ont cru. Puis, ce n'était pas nécessairement pour avoir le fruit d'être régénéré par leur foi. Mais par contre, c'est quand même important quand ils disent « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci? » C'est vrai qu'il a fait des miracles, là, bon, le gars justement, le fameux gars sur le bord de la piscine de Bethesda, mais il a fait toutes sortes d'autres miracles aussi. Bon, il y en a beaucoup qu'on a vu, là, l'eau changée en vin, la résurrection de Lazare et tout ça qu'on va voir plus tard. Mais aussi tellement de choses que Jésus a faites qui sont uniques à lui. Jésus a aimé d'une manière dont personne n'avait jamais aimé. Il a souffert avec courage jusqu'à la croix, puis tout le rejet, puis tout ça. Il a payé la dette du péché, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel en gloire, il a incarné, présenté, proclamé l'évangile éternel, il a transformé des vies. Il a libéré du péché de soi-même, il a consolé les cœurs, il a restauré des vies, des relations, il a triomphé de la tyrannie, il a formé des disciples qui ont fait en sorte que son message s'est répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a rien de cela qui n'a été fait, qui a été possible par personne d'autre que Jésus. Vous savez, des fois, on dit « Ah, Jésus a dit, vous allez faire des plus grandes œuvres que moi. » Oui, c'est vrai, il y a ce point-là. Mais Jésus, lui, en tant que personne qui est venu sur terre, Dieu venu sur terre, c'est incomparable. Il n'y a jamais personne qui a fait ça. Et dans ce sens-là, on peut dire, y a-t-il quelqu'un? Non, il n'y en a pas. Il est unique. Il est incomparable. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y avait cette jalousie meurtrière. Comment qu'on va dire? Ils menaçaient leur position sociale, leur contrôle qu'ils avaient sur la population, parce que, justement, ils apprenaient de droit. Ça nous amène à conclure avec les versets 33-36. On va les lire, puis je vais juste vous dire une couple d'affaires pour terminer, puis on va avoir fini. Verset 33, Jésus dit « Je suis encore avec vous ». Pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Évidemment, ça nous parle de la croix, puis de la résurrection et tout ça. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez venir où je serai. Donc, encore là, Jésus était incompris par ceux à qui il s'adressait. Deux fois, il dit, vous allez me chercher, vous n'allez pas me trouver. Vous ne pouvez pas venir où est-ce que je vais. Et là-dessus, il y a quelque chose de tellement important. C'est là-dessus que je veux terminer. Vous me chercherez. Et il y a deux façons de chercher Dieu. Eux autres cherchaient des défauts avec Jésus. Ils jugeaient selon les apparences et non selon la justice. Ils cherchaient à le prendre en défaut. Ils ne cherchaient pas Dieu, ils cherchaient à le rejeter. Mais aussi, on peut chercher Dieu pour le trouver, lui, comme personne. Pour le trouver comme celui qui console, qui donne la grâce, qui donne la vie. Et c'est deux façons totalement fondamentales, différentes fondamentalement. Et c'est la différence, c'est la vie puis la mort. Parce que, savez-vous, des fois on dit, ça dit dans la Bible, personne ne cherche Dieu. Et des fois, les gens cherchent Dieu, mais pas pour la bonne raison. Ils essaient de prendre Dieu en défaut, puis trouver des raisons pour lesquelles ils ont raison de le rejeter. J'espère qu'il n'y a pas personne ici qui est dans cette situation, que vous avez encore cette attitude, vous n'avez pas encore connu Dieu comme votre sauveur, puis essayer de le prendre en défaut. Mes amis, si on joue à ça, ce n'est pas nous qui va gagner. On ne peut pas mettre Dieu en jugement. C'est nous qui va être un jour devant lui, puis toute bouche va être fermée. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas, comment ça dit dans le Proverbe, devant l'Éternel, là, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas, on n'a rien qu'on peut essayer de dire devant Dieu. Vous demanderez à Job, il n'y avait rien à dire, même si Dieu avait des voies qui étaient vraiment difficiles pour lui. Parce que Dieu est Dieu, puis il va rester Dieu, puis l'homme ne peut pas se placer en juge devant lui. Mais lorsque je cherche Dieu pour essayer de le trouver, puis moi, dans la souffrance, des fois, je ne comprends pas pourquoi ça arrive, mais que mon attitude, c'est Dieu. C'est quoi que tu fais? C'est quoi que tu veux montrer? Dieu, comment je peux te trouver là-dedans, te découvrir là-dedans? Ça, mes amis, vous allez trouver la paix, la joie, parce qu'il est la paix, la joie, il est tout ce dont on a besoin. Lorsqu'on cherche Dieu de même, Dieu nous promet qu'on va le trouver. Que si on cherche de tout notre cœur, on va le trouver. Puis lorsqu'on trouve Dieu, on trouve absolument tout ce dont on a besoin. Et c'est mon appel ce matin, simplement, cherchez Dieu pour qui il est. C'est vrai pour quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, de le trouver pour notre sauveur, mais c'est vrai pour tous les enfants de Dieu, de le trouver dans le milieu de ce qu'il nous envoie, dans le milieu de nos circonstances, pour qu'on découvre sa grâce suffisante, qu'on découvre comment il est fidèle et il ne nous abandonne jamais, il est toujours au rendez-vous. Et donc, c'est simplement ce que je nous appelle ce matin à faire alors qu'on va prier. Cherchez Dieu. Puis un petit indice, c'est quoi? Un bel endroit pour trouver Dieu, c'est à la croix du Calvaire. C'est là qu'il a réconcilié sa justice contre notre péché puis son amour pour nous pécheurs. Et comment tout est là, dans la croix. Et il est vivant maintenant pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi. Il est vivant aussi pour délivrer son peuple de ses péchés. Merci Seigneur pour ce temps ce matin, avec ta parole qu'on a pu considérer avec ces moments tendus. Le ministère de Jésus, c'était pas un long fleuve tranquille. En fait, c'était tumultueux. Il y avait toutes sortes de rejets, même de la violence. Mais merci pour ta patience. Merci Seigneur que tu t'es laissé trouver. Et Seigneur, je te prie que ce matin, alors qu'on conclut notre temps dans ta parole, qu'on puisse te chercher de tout notre cœur et pas s'arrêter aux apparences, à ce qu'on peut voir de nos yeux, entendre de nos oreilles, selon la chair, mais qu'on puisse te chercher par la foi et prêter l'oreille à ce que toi tu dis dans ta parole, afin, Seigneur, de laisser ta grâce se manifester. On veut ajouter foi à ce qu'on a entendu, afin que ça porte du fruit pour toi. Pour ta gloire, on te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.